marche de l'histoire, du lundi au vendredi sur France Inter à 13h30.
Qu'est-ce que l'histoire ? C'est un voyage dans le passé en enfilant la peau des autres pour se mettre à leur place.
L'immigration et la société.
Nous entamons ce soir l'examen du projet de loi pour une immigration maîtrisée et un droit d'asile effectif qui est inscrit à l'ordre du jour de notre Assemblée dans la semaine du 9 avril. Monsieur le ministre, je vous cède la parole.
Merci, madame la présidente de la commission des lois, mesdames et messieurs les députés, mesdames et messieurs, nous sommes ensemble pour quelque temps. Sur un sujet qui, pour moi, représente une certaine gravité.
Le sujet présente une certaine gravité, dit le ministre de l'Intérieur. Certes, c'est largement autour de lui que se sont organisés les récents scrutins en Allemagne, en Autriche, en Italie. Les affiches de Viktor Orban, qui vient de remporter hier un troisième mandat, représentaient un flot d'hommes en marche vers la Hongrie, qui installait à sa frontière un panneau « Stop ». En France comme ailleurs, la distribution des rôles politiques s'en trouve brouillée. On entend des représentants de la droite défendre avec une énergie qu'on ne leur connaissait pas la sécurité sociale et l'État-providence qui seraient menacés par l'immigration. À gauche, on voit l'ancien maire communiste de Vénissieux soutenir Gérard Collomb. La morale ne serait pas nécessairement du côté de l'ouverture des frontières. Il faut faire tomber les tabous, dit André Gérin. En tout cas, ce sont les lois qui tombent, comme à Gravelotte, depuis 1993, en moyenne une tous les deux ans. Celle de 2015 sur l'asile est à peine entrée en application, qu'en voici une autre. Les ministres de l'Intérieur annoncent immanquablement une politique ferme et humaine, à moins que ce ne soit l'inverse. Surtout, ils étalonnent les mesures qu'ils annoncent sur l'état de l'opinion. On parle de démocratie d'opinion. Il faudrait parler plutôt d'une politique de l'opinion, car l'étape de la délibération est souvent sautée, faute de temps de réflexion apaisée, faute aussi de consensus sur les instruments de mesure. Les démographes en fournissent pourtant. Certes, il arrive qu'ils soient divisés, mais de plus en plus, souvent, ils sont récusés. Ce ne sont pourtant pas des augures manipulant des mystères. Ils disposent d'instruments de mesure fondés sur la durée. Qui plus est, beaucoup ne se contentent pas d'expliquer le démographique par le démographique. Ils ne mathématisent pas le social. Ainsi, François Héran, notre invité, le Collège de France vient de l'élire à une chaire Migration et Société.
La marche de l'histoire. Jean Lebrun sur France Inter.
Monsieur le professeur, bonjour.
Bonjour.
Je suis protocolaire, comme Gérard Collomb, à la commission des lois de l'Assemblée nationale. Alors, quand je dis que les démographes n'expliquent pas toujours le démographique par le démographique, vous avez une formation littéraire.
J'ai commencé par la philosophie, j'ai poursuivi par l'anthropologie, parce que je voulais voyager, étudier les sociétés lointaines. J'ai fait des enquêtes de terrain, des enquêtes statistiques, et puis finalement j'ai atterri à l'INED, l'Institut National d'Études Démographiques, à l'INSEE, l'Institut National de Statistique et d'Études Économiques. Je me suis formé en statistique et en démographie. J'ai enseigné longuement la statistique à l'ENSAE, la statistique appliquée, l'art de faire des enquêtes. Et voilà, de proche en proche, ceci m'a amené à prendre des responsabilités, à diriger la division des enquêtes d'études démographiques de l'INSEE, à diriger l'INED.
Alors l'INED, je tiens à le préciser, c'est de l'autre côté du périphérique, l'Institut National d'Études Démographiques. Bah si, il est de l'autre côté du périphérique depuis qu'il est du côté de la Porte de Vanves. C'est de l'autre côté du périphérique.
Non, c'est l'INSEE.
Oui, mais l'INED est de l'autre côté du périphérique, où va l'être à Aubervilliers.
Voilà, l'INED va déménager tout entier en 2019 à Aubervilliers, effectivement, dans le campus des sciences humaines et sociales.
Non, parce que je tiens aussi à dire à nos auditeurs que vous habitez vous-même de l'autre côté du périphérique.
Oui, et c'est banal.
Voilà, que votre goût des voyages lointains vous a amené, alors, dans les pays arabes, en Andalousie.
Oui.
Ça, c'était une enquête sur la migration, déjà, à vos débuts ?
Alors, j'ai effectivement, en Andalousie, fait ma première enquête sur la migration à l'époque où l'Espagne était un pays d'émigration. Et donc, avec les registres de population soigneusement conservés dans les mairies, j'ai pu étudier le choix des destinations et montrer que les gens qui voyagent, qui vont migrer dans les pays lointains, sont plutôt des gens qui ont de l'éducation, sans charge de famille, qui ont un certain niveau de formation, alors que les autres migrent à petits rayons, se contentaient d'aller travailler sur les chantiers de la Costa del Sol, les barrages de la Catalogne ou du Pays Basque, etc. C'était ma première étude en 1976.
Une observation qu'on va trouver corroborée dans vos premiers cours au Collège de France, où vous parlerez souvent de l'immigration ordinaire, des pulsations de l'océan et de ce qu'on appelle les crises de l'extraordinaire. Et puis, vous dites souvent, François Héran, que depuis les années 1970, en Europe, l'immigration n'est plus régulée par la logique du marché, mais par la logique des droits. Justement, 1973 jusqu'au début des années 1980, une grande crise, entre guillemets, celle des « boat people », qui arrive 170 000 en France. À l'époque lointaine, on voyait des bateaux militaires envoyés là-bas pour les secourir.
Ce jour-là, 48 heures après notre départ de Singapour, lorsque nous avons repéré le premier bateau de Boat People, le sentiment que nous allions assister à un événement extraordinaire a de nouveau joué.
C'est de très loin, pour moi, de très loin, la plus belle expérience que j'ai faite dans la marine. Mettre un bâtiment de guerre aux côtés d'un bâtiment marchand battant pavillon français dans le cadre d'une mission humanitaire telle que celle que nous avons connue, c'est affirmer clairement et nettement que l'État, la France, entend jeter un œil dans ses affaires et montrer l'intérêt réel qu'elle porte à la recherche d'une solution du problème des réfugiés.
Et après le commandant du Balni, aussi un de ces réfugiés vietnamiens.
Quand vous êtes dans une situation où vous êtes privé de liberté, qu'il n'y a pas d'avenir et d'espoir pour vos enfants parce que vous savez qu'ils vont pas avoir une éducation, qu'ils vont pas avoir vraiment un avenir, qu'ils risquent même d'avoir des problèmes de violence, de guerre, et que déjà au quotidien vous n'arrivez pas à les nourrir, ben, ce que fait tout humain depuis le début de l'humanité, il émigre, il s'en va.
Voilà la question posée sobrement, selon les termes des classiques que vous lisez, que vous faites partager dans vos cours, François Héran.
Oui, on peut dire que proclamer le droit d'émigrer, le droit de quitter son pays, c'est quelque chose qui existe dans la Convention internationale des droits de l'homme. Tout homme a le droit de quitter son pays, de tout pays, y compris le sien, et d'y revenir. Ça avait été fait notamment pour autoriser, en quelque sorte, légaliser le départ hors des pays communistes, au lendemain de la guerre. Mais l'homme qui a le premier vraiment formalisé cet énoncé, c'est Grotius, G-R-O-T-I-U-S, c'est Hugo de Groot, en néerlandais. C'est un des très grands personnages de l'histoire du droit en Europe.
Et il s'est retrouvé en exil en France au début du
XVIIe. Tous les écoliers néerlandais connaissent Grotius. En France, on ne le connaît pas, c'est vraiment dommage. Il était exilé en France sous Louis XIII, et après avoir proclamé le droit de tout pays à naviguer librement sur les mers, un grand traité déjà fameux, il a proclamé aussi le droit de tout individu à s'établir dans l'état de son choix. C'était une formule évidemment très forte. Et en même temps, Grotius est quelqu'un qui cite les juristes espagnols de Salamanque des années 1530 qui avaient édifié le droit des gens et contre la colonisation. Donc la mer est un grand marché, mais il n'est pas question d'asservir les riverains.
Alors on connaît plus, nous, Jean-Jacques Rousseau. Il a parlé du sujet.
Oui,
aussi.
Alors Rousseau a lu Grotius. Il est très impressionné par Grotius. Et à la fin du livre 3 du contrat social, il dit « Mais oui, Grotius a raison. Tout homme a le droit de quitter son pays pour reprendre sa liberté naturelle. » Mais il pose quand même des conditions. Il ne faut pas que ce soit une désertion. Et ça, Grotius déjà le disait. Il faut quand même payer ses dettes. Si la patrie est en danger, il ne faut pas échapper au service militaire, par exemple. Et en fait, en 1966, le pacte des droits civiques de New York va allonger la liste des exemptions, si bien que maintenant même le droit de quitter son pays est défini de façon très très lâche.
Mais il y a aussi une autre tradition philosophique qui consiste à défendre le bien-être maximum pour ceux qui sont déjà.
Alors, il y a
derrière des frontières.
Si vous voulez, les deux grandes éthiques qui s'affrontent, qui ne cessent de s'affronter, c'est toujours l'éthique de Kant et l'éthique de Bentham. Bentham, c'est donc le début du 19e siècle. Bentham est quelqu'un d'assez pragmatique et l'idéal, c'est de maximiser le bien-être pour le plus grand nombre possible de personnes. Alors que Kant, c'est l'énoncé du devoir strict, inconditionnel, qui est un terme utilisé par les partisans de l'hospitalité. En fait, lorsqu'on lit Kant, il s'aperçoit qu'il faut quand même obtenir l'accord des pays où s'installent les migrants. Et Bentham, lui, finalement, si on suit le raisonnement de Bentham, on peut tout à fait accepter une certaine ouverture des frontières pour peu que ça profite à la fois au pays départ et au pays d'arrivée. Et ça, de nombreux économistes font des modèles qui tendent à montrer qu'effectivement, il vaut mieux délivrer des visas, favoriser le va-et-vient, que de bloquer les gens dans les trappes à pauvreté et de les empêcher de partir.
Alors, vous parlez de la sobriété des classiques. Je vais vous faire entendre quelques témoignages de politique contemporaine. Nous sommes dans un moment extraordinaire, là aussi, 2015. Et là, la surchauffe du vocabulaire se fait entendre.
C'est une crise. Elle est dramatique. Elle est grave. Elle peut être maîtrisée et elle le sera.
Disons aussi la vérité. Cette crise sera longue et ce sera un défi que de l'enrayer. Cette crise migratoire met nos sociétés à l'épreuve.
Cette folie doit cesser tout de suite pour que le flot se tarisse tant qu'il est encore temps et que ce chaos cesse.
Alors vous-même, vu votre tempérament d'observateur, vous allez en Croatie en 2015.
Oui, j'ai eu l'occasion d'observer en décembre 2015 ces trains. Il y avait chaque jour 4 ou 5 trains de 1500 personnes chacun qui débarquaient effectivement dans la partie nord de la Croatie, en Slavonie. Et les gens se branchaient sur aussitôt branchaient leur téléphone portable, s'informaient sur ce qui allait se passer. Et ensuite, prenaient un autre train pour aller en Slovénie avec l'espoir de pouvoir gagner l'Autriche et l'Allemagne. Donc effectivement, j'ai assisté à ce mouvement-là. Oui.
Alors, le vocabulaire est excessif, dites-vous, parce que ce ne sont pas seulement les crises qu'il faut observer, qu'on peut juguler, comme le disait le président Hollande. La France n'a pas accueilli beaucoup de monde, il est vrai. La pulsation ordinaire est de bien plus grande importance.
Oui, alors je fais cette distinction entre, les déferlantes, n'est-ce pas, qui attirent, concentrent les regards et soulèvent les passions. Enfin, il y a aussi une migration tout à fait ordinaire. En gros, chaque année, nous avons pendant très longtemps accordé à peu près 200 000 titres de séjour à des non-européens au titre des droits. Du droit à épouser qui l'on veut et à faire venir son conjoint de l'étranger.
Des droits qui sont régis aussi par des conventions internationales.
Du droit à vivre une vie de famille normale, du droit des enfants de ne pas payer pour la situation de leurs parents en situation irrégulière. Il y a aussi ce quasi-droit, effectivement, qui consiste à pouvoir s'inscrire assez librement dans une université étrangère si le président de l'université est d'accord. Et en fait, quand on regarde les permis de séjour que nous accordons en France, eh bien, la quasi-totalité... c'est au titre des droits. C'est-à-dire que les gens ne viennent pas pour satisfaire des besoins économiques, ils ne viennent pas pour réparer la pyramide des âges, ils viennent fondamentalement parce qu'ils en ont le droit. Et ce sont des conventions internationales auxquelles nous avons souscrites. Nous avons souverainement accepté de délaisser une partie de notre souveraineté pour que ces droits s'appliquent. Et c'est vers la fin des années 70 qu'on découvre que le migrant n'est pas seulement un travailleur immigré, mais que c'est aussi un sujet de droit. Et un détail important, qui vit avec son conjoint et ses enfants dans une entité assez spéciale qu'on appelle la famille, et que cette famille a des droits fondamentaux.
Oui, mais à force de sédimentation, nous en sommes maintenant, dites-vous, à un quart de la population immigrée ou enfant d'immigrés, parce que les traits de l'immigration, pour les démographes, ne s'effacent pas avec la naturalisation. Et comment dire, ces produits... Je ne sais pas quel vocabulaire utiliser. Un lent glissement, on va dire une lente infusion.
Oui, c'est une formule que j'ai lancée il y a déjà un certain temps, c'est que dans le cas de la France, c'est pas vrai de tous les pays, mais dans le cas de la France, l'immigration qui a commencé dès la moitié du milieu du 19e siècle, ce n'est pas des intrusions massives, c'est une infusion durable. Si vous regardez le profil migratoire de l'Allemagne, c'est complètement différent. Le profil migratoire de l'Allemagne, c'est les montagnes russes au fil des ans, avec une très très forte, un accueil considérable de tous les réfugiés des guerres des Balkans, idem pour le Kosovo et pour la Syrie. En gros, les Allemands accueillent 8 à 10 fois plus de monde que nous, à population égale. Donc, ça ne veut pas dire que nous ne respectons pas les droits, mais nous le faisons autrement, notamment en prenant au sérieux l'unité familiale et le migrant sujet de droit. Alors que les Allemands ont davantage une force de frappe caritative qui les mobilise très fortement dans la migration d'urgence. Ce sont deux pratiques, deux attitudes assez différentes. C'est pas facile d'expliquer pourquoi, mais une des raisons, c'est qu'il y a en Allemagne a incontestablement une prégnance de la religion, des valeurs religieuses. Les trois quarts des Allemands de l'Ouest, au recensement de population, s'affilient à une entité religieuse et paient un impôt ecclésiastique en conséquence, qui ensuite va alimenter les grandes organisations caritatives comme Caritas et la Diaconie, qui est l'équivalent protestant. Nous n'avons pas ça en France. Et en France, on a plutôt l'idée que c'est à l'État de s'en occuper.
Au total, quand même, vous avez dit ça au Nouvel Observateur, pas à votre leçon inaugurale du Collège de France. Eh ben, dans 40 ans, c'est inéluctable, vu la pyramide des âges, la France ressemblera à la Réunion.
Je pense qu'on peut le dire assez raisonnablement, parce qu'effectivement, les dernières générations de femmes du baby-boom en âge d'avoir des enfants ont atteint la fin de leur vie féconde. Les premières générations du baby-boom nées dans les années 45-50 arrivent en première ligne des décès, donc moins de naissances, plus de décès, nous aurons forcément une chute du fameux solde naturel dont nous sommes si fiers. Et même si la migration ne change pas, même si les flux migratoires restent absolument les mêmes que maintenant, sans changement de politique migratoire, sans aucune politique familiale, de toute façon, la migration prendra le dessus comme moteur de la croissance démographique de la France.
Oui,
il vaut mieux s'y préparer. Il vaut mieux s'y préparer et aussi accepter l'idée que si nous respectons les droits universels qui effectivement alimentent l'immigration, on ne peut pas vivre dans l'universel fermé. Forcément, ça va changer le paysage social de la France.
Enfin, vous me direz que c'est pas Mayotte, la Réunion, parce que certains éditorialistes nous disent que la France ressemblera bientôt à Mayotte. En tout cas, tout ça, c'est l'Afrique. Je vous propose, on va consacrer le deuxième volet de cette émission à l'Afrique, de commencer notre transition démographique avec Youssou N'Dour. Youssou N'Dour, grand camarade de Jacques Higelin qui vient de disparaître.
Youssou N'Dour et les super étoiles de Dakar.
Aujourd'hui c'est la fête. Et en Afrique les gens s'ils dansent sur place, vous êtes prêts? Yeah, yeah, yeah.
La marche de l'histoire. France Inter, Jean Lebrun.
Avec François Héran qui, au Collège de France, enseigne depuis la semaine dernière nouvelle chaire Migrations et Sociétés. Alors, un de vos thèmes, ce sera les ordres de grandeur. Je voudrais qu'on parle du rapport entre l'Europe et l'Afrique. Stephen Smith publie un livre, La ruée vers l'Afrique, le jeune continent et le vieux continent. Et il donne ces chiffres 1885, au moment de la conférence de Berlin, quand les puissances coloniales se partageaient l'Afrique. Enfin, leur population ne serait pas venue, les populations africaines, si on ne s'était pas invité chez elles. 275 millions d'Européens hors Russie, et de l'autre côté, 100 millions peut-être d'Africains. Aujourd'hui, 510 millions et 1 milliard, et en 2050,
Oui, 2,1, quelque chose comme ça.
Milliards.
Milliards, oui. Vous savez, il s'est passé aussi la même chose pour l'Asie, hein, qui reste actuellement, même en 2050, restera de loin le continent le plus peuplé, même si l'Afrique subsaharienne prendra effectivement, représentera à peu près 22% de la population mondiale en 2050, si on en croit les projections assez conservatrices de l'ONU. Mais l'idée qu'il y aurait un système de vases communicants, et qu'aussitôt cette énorme explosion de l'Afrique, cette croissance démographique de l'Europe, tout à fait réelle et vraiment considérable, l'idée qu'elle va automatiquement, comme sur le principe des vases communicants, se déverser chez nous, est fausse. Et fausse pourquoi? Et ça a été très bien montré dans une note du Fonds monétaire international récente. 70% des migrations des pays de l'Afrique subsaharienne se font dans d'autres pays de l'Afrique subsaharienne. Par ailleurs, les migrations, on ne parle pas de la population entière, mais simplement du taux d'émigration, le pourcentage que représentent les émigrés par rapport aux pays d'origine, c'est très faible en Afrique subsaharienne, parce que ces pays, les pays comme le Tchad ou le Niger, sont extrêmement pauvres, ils sont trop pauvres pour que l'émigration décolle beaucoup.
Oui, mais les grands pays, François Hollande,
alors, le Nigeria,
Nicolas Sarkozy parlait sans cesse pendant sa campagne, sa dernière campagne, oui, mais, du Nigeria, bientôt troisième pays le plus peuplé du monde.
Oui, mais il se trouve que le Nigeria partage avec la plupart des pays qui ont plus de 150 millions d'habitants, et c'est vrai de la Chine et de l'Inde, partage le fait qu'il y a très peu d'émigrés hors du Nigeria. Même pas 1% de la population nigérienne vit à l'extérieur. Pourquoi? Parce que le Nigeria, c'est à peu près la moitié des États-Unis en population. C'est 191 millions d'habitants. Parce que ces pays sont des masses suffisamment importantes pour retenir leur population dans un grand jeu de migration interne. Mais c'est vrai de l'Indonésie, c'est vrai des États-Unis qui émigrent très peu, c'est vrai de la Chine et de l'Inde. Il n'y a même pas 1% de la population chinoise qui vit à l'extérieur de la Chine. Alors évidemment, oui. Sur une base de calcul initiale qui est très large, ça fait tout de suite
une diaspora
relativement importante. Mais ce que le Fonds monétaire international a calculé, c'est que si on prend les populations projetées sur 2050, on aura effectivement 6 fois plus de subsahariens dans les pays de l'OCDE, qui est en gros l'Europe, les États-Unis, le Canada. Ça fait donc une hausse très importante, mais ça ne fera jamais que 2,4% de la population. Alors 2,4% de la population de l'OCDE d'origine subsaharienne, ça n'est quand même pas une invasion, c'est une forte hausse. Je pense qu'on peut agir, il faut agir sur mais la France a très peu agi. On a eu très peu de programmes pour, par exemple, permettre aux femmes subsahariennes qui le demandent, comme le montrent des enquêtes répétées, qui demandent à disposer effectivement de moyens permettant d'espacer les naissances. Elles aimeraient bien aussi retarder l'âge au mariage, car l'âge au mariage est très très précoce dans ces pays. Donc il y a toute une demande d'action de santé reproductive, comme ça s'appelle maintenant, à laquelle la France a très peu participé. Et quand on participe à des colloques internationaux, nos collègues américains ou anglais nous engueulent littéralement, nous les Français, parce qu'on s'est désintéressé de ce problème dans les pays d'influence francophone.
Vous avez suivi de près le voyage à Ouagadougou du président Macron. Il s'est jeté, tel Jacques Higelin, dans le chaudron des étudiants burkinabés. Il a justement dit sur les femmes ce que vous venez de dire. Et puis, lui a été posé sans cesse par ses jeunes interlocuteurs la question de la possibilité pour eux de venir faire des études en France.
Je vais répondre à chacun de vos points, mais je vais répondre avec la bienveillance ambitieuse que j'ai pour notre relation, et pas la revendication un brin haineuse qu'il peut y avoir dans certaines interpellations. Parce qu'on ne construira rien là-dessus.
S'il vous plaît.
Vous voulez... Je vais répondre en fait question par question.
Oui, c'est ça.
Je réponds question par question, d'accord. Mettez-vous 2 secondes à la place d'un jeune étudiant français, ou plutôt de ses parents. Ils travaillent pour faire vivre un système avec des équilibres. Et les générations avant ont travaillé pour développer tout ça. Si vous leur dites, moi j'ai un droit d'accès complet sans condition, j'arrive, je viens sans condition, c'est un peu ce que vous disiez. Moi, je vais vous dire, je suis président de la République française. Je ne peux pas expliquer ça à mes classes moyennes, qui ont travaillé, qui sont en train de travailler, qui payent des impôts. Je vais leur dire quoi ? C'est formidable, on va accueillir tout le monde, il n'y aura plus de frontières. Vous savez, j'ai une nouvelle idée dans la relation avec l'Afrique, il n'y a plus de frontières. Tout le monde est le bienvenu. Mais c'est ridicule, parce que qui va financer ça ? Mais les gens, vous allez nourrir quoi ? Le racisme et la xénophobie dans tous les pays qui auront ces vagues. Donc nous devons avoir une relation adulte de responsabilité partagée, de développement partagé. Comme je vous le disais tout à l'heure, sur la mobilité des étudiants de part et d'autre, des entrepreneurs, des créateurs, parce qu'il y en a. Mais ça ne peut pas être les frontières ouvertes à tous les vents, ça n'existe pas. Les gens qui disent ça vous mentent, ça se finira comment ? Ça se finira en conflit. Donc ça ne marche pas.
Oui, ce n'est pas nécessairement une position morale incontestable que d'ouvrir les frontières. Ce n'est pas seulement de bonne politique d'en restreindre l'ouverture. Ça peut être aussi un calcul moral.
Le long développement qu'on vient d'entendre nécessiterait évidemment un commentaire quand même attentif. On n'a pas le temps. D'abord, ce que je voudrais dire, c'est qu'on est là dans une variante de « mais toute la misère du monde risque de s'inviter chez nous si on n'y prend pas garde ». Alors, ça n'est pas vrai. La migration subsaharienne ne représente qu'une petite partie. Et surtout, ce qui est complètement oublié dans ce discours, mais c'est normal, il n'a pas les données, c'est qu'en réalité, la migration subsaharienne, elle est très sélective. Il n'y a, je vous le disais, qu'une petite partie, même pas 2% des subsahariens qui émigrent. La plupart du temps, quand ils émigrent, c'est à l'intérieur du reste de l'Afrique subsaharienne. Et ceux qui émigrent, sont très sélectionnés. Donc quand vous avez de jeunes étudiants burkinabés, déjà triés sur le volet, ils ont été autorisés à discuter avec le président de la République, qui vont en France et qui... Vous voyez, c'est comme... ils ont monté tout l'escalier, ils arrivent à la porte du paradis et Saint-Pierre...
Au guichet céleste.
Au guichet céleste.
Qu'est-ce que c'est
ça.
Un guichet céleste,
voilà. Ben oui, parce qu'il faut s'imaginer un grand escalier qui monte, il y a toutes sortes d'obstacles. Et finalement, Saint-Pierre leur dit, ah ben non, vous êtes trompé de porte, redescendez toutes les marches et allez ailleurs, restez chez vous. Mais en réalité, ce qu'ils vont faire, c'est d'aller frapper à d'autres guichets célestes, parce qu'il y a un marché mondial des guichets, et certains de ces étudiants qui se sont adressés directement à Emmanuel Macron, il a eu aussi des conversations plus individuelles, ils risquent d'aller en Australie, aux États-Unis, au Canada, etc. Donc je pense que l'élite francophone, en même temps il y a tout le problème de la francophonie, ça sert à quoi développer la francophonie si on refuse des échanges culturels ? Et il ne s'agit pas de demander à la population française d'ouvrir tous azimuts l'éducation et de financer l'éducation des subsahariens. Ça n'a jamais été qu'une minorité. Ce n'est pas la misère du monde qu'on accueille, ça n'a jamais été qu'une petite fraction. Vous le voyez même pour les réfugiés syriens. La petite minorité des réfugiés syriens qui arrivent chez nous, elle est très sélectionnée. L'immense majorité des réfugiés, 80%, restent dans la région du Proche-Orient. En réalité, ce qu'oublie ce discours, c'est qu'il n'y a pas seulement la migration internationale, il y a l'immigration régionale et il y a l'immigration interne. Et il faut regarder comment ces mouvements se répartissent. Mais il est normal que nous sommes un des 5 pays au monde qui attire les étudiants. Nous avons une agence France Campus qui fait une publicité du tonnerre pour attirer des étudiants. Nous partageons ça avec les États-Unis, avec la Grande-Bretagne, avec l'Australie, avec l'Allemagne. Il est normal que nous puissions accueillir en France une fraction dûment sélectionnée, effectivement, des étudiants qui sont francophones et qui ont des choses à nous apporter et réciproquement, et qui pourraient ensuite revenir dans leur pays, faire profiter leur pays d'origine de tout ce que nous leur aurons appris.
Mais il y aurait beaucoup à dire, expliquez-vous dans votre leçon inaugurale sur l'aide au développement, le co-développement, le développement solidaire dont le résultat ne correspond pas toujours aux intentions. Ce sera l'objet certainement d'une autre émission. Je renvoie à votre dernier livre, c'est aux éditions de la Découverte. Tous vos autres ouvrages sont signalés sur notre site qui vous permet aussi de podcaster l'émission. Monsieur le professeur au Collège de France, merci à vous. Frédéric Martin, Franck Olivard, Elinka Negulesco, Adèle Kaito, c'est l'équipe de la Marche de l'Histoire. Ronan Mahé aujourd'hui à la technique et Valérie Astaraï à la réalisation.